Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Incomprise, parfois décriée, et si la laïcité, et notamment la laïcité à la française, apportait la garantie d'une vie spirituelle bien plus élevée? C'est le fil conducteur du dernier livre d'Abdennour Bidar, Génie de la France, publié chez Albin Michel. Abdennour Bidar, bonjour.
Bonjour.
Normalien, agrégé de philosophie, inspecteur général de l'éducation nationale, vous vous êtes fait connaître par des livres profondément humanistes, engagés, j'allais dire, sortis dans des périodes de violence islamiste. Là, je pense au plaidoyer pour la fraternité, donc après les attentats de janvier 2015. Mais avant, il y avait eu en 2014, lors des exactions de Daesh en Syrie, votre lettre ouverte au monde musulman et vous exprimiez la tristesse, votre sainte colère face effectivement à ces violences. Depuis, vous travaillez sur la question du lien, la question de la fraternité. Là, je pense au livre « Les tisserands ». Vous voulez manifestement réparer les tissus abîmés de la société. Alors, avec le génie de la France et l'éloge de la laïcité à la française, c'est un sujet que vous abordez à la fois, c'est ça qui est intéressant, en tant que philosophe, en tant que fin connaisseur de l'histoire de France, et puis aussi en tant que croyant, que musulman, Abdennour Bidar.
Oui, alors c'est un éloge critique, parce que je suis philosophe et donc cet examen de la laïcité, ça ne peut être de ma part qu'un examen critique, et je dirais critique d'abord parce que j'entends beaucoup de choses, comme tout le monde, sur la laïcité, sur ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on a l'impression que à chaque fois qu'on interroge quelqu'un sur la laïcité, on en a une définition différente, et on voit à quel point dans notre société aujourd'hui, ces conceptions de la laïcité divergent et sont antagonistes et font que la laïcité est un des sujets qui nous divise profondément. C'est un sujet qui est extrêmement clivant. Il y a les tenants d'une laïcité stricte, les tenants d'une laïcité ouverte, etc. Et je me suis donc étonné, parce que l'exercice critique de la philosophie, c'est d'abord l'exercice d'un étonnement. J'ai déploré qu'on se fâche autant sur ce sujet. Et puis je me suis étonné que ce principe qui, à mon sens, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, est fait pour rassembler, puisse être devenu ces dernières années aussi diviseur, aussi polémique, aussi clivant comme vous le dites. Et j'ai voulu, évidemment, ça c'est ce que j'essaie de faire de livre en livre, être un facteur de réconciliation. Et montrer que peut-être, entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, on peut s'entendre autour d'une conception de la laïcité qui a une dimension politique, mais comme je le dis dans le livre aussi, une dimension spirituelle.
Oui, la laïcité effectivement est incomprise, souvent à l'étranger notamment. On voit bien que la laïcité à la française passe pour de l'athéisme.
Oui, alors il faut dire qu'on donne largement le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire que on porte souvent la laïcité, enfin un certain nombre d'entre nous français portent la laïcité comme presque une arme anti-religieuse, c'est-à-dire que une conception de la laïcité qui est largement répandue dans notre société voudrait que au motif de cette laïcité la religion disparaisse de l'espace public et ne soit plus qu'une affaire de sphère privée ou de fort privé. Il me semble que c'est excessif, c'est-à-dire que ce à quoi veille la laïcité dans l'espace public, ça n'est pas à éradiquer le religieux de l'espace public, mais simplement à ce que ce religieux ne prenne pas le pouvoir. Donc en fait, ce que vise la laïcité, ce par rapport à quoi même elle est vigilante, je dirais, davantage, c'est à ce que nous vivions dans une société libre, où chacun, quel qu'il soit, athée, agnostique ou croyant, puisse se sentir en sécurité de ses options existentielles, de ses convictions. Et donc c'est pour moi un principe de liberté, c'est pas avant tout un principe d'interdiction. Et puis ce n'est pas l'anti-religion.
Alors, quelques explications sur ce titre, Abdennour Bidar, génie de la France.
Je suis très content que vous commenciez par là, parce que je vais dire un truc très simple, peut-être un peu gnangnan. J'aime la France. Je pense qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui pour parler de la France dans le grand village global.
C'est pas ringard.
Non, c'est pas ringard. Et puis ça ne veut pas dire que je suis anti-européen, que je suis, etc. Il m'a semblé que ce thème de la France n'était pas un thème ni obsolète, ni réactionnaire en soi. et qu'on pouvait parler de la France en la regardant d'abord telle qu'elle est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, la société française, c'est une société qui a énormément changé sur le plan ethnique, sur le plan culturel, une société qui connaît une diversité interne absolument sans précédent, hein. On est une des grandes sociétés multiculturelles du monde. Et ce qui est passionnant, c'est à la fois de faire droit à cette diversité et en même temps d'être capable toujours de nous retrouver sur des fondamentaux qui font, alors pardon de le dire comme ça, ça fait un peu gaullien, mais autour de ce qui fait notre grandeur. Ça ne veut pas dire qu'on est plus grand que les autres, mais ça peut dire qu'on peut nourrir une légitime fierté d'avoir poursuivi, vaille que vaille, sans être toujours à la hauteur, des grands idéaux comme la liberté, l'égalité, la fraternité. Parce que dans ce livre, je ne parle pas que de laïcité. Pour moi, c'est un tout. Hein, c'est-à-dire que la laïcité, c'est cet espace de sécurité pour les convictions existentielles qui est une dimension de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. On peut être frère, qu'on soit athée, agnostique, croyant, parce qu'on vit dans un pays laïque. Et parce que, à partir de là, celui qui croit en Dieu n'a pas à avoir peur de celui qui n'y croit pas. Et inversement, ça nous met à l'abri des guerres de religion, si vous voulez. Et Dieu sait, enfin, s'il existe, mais ça c'est un autre problème. Ça on verra dans un autre livre. Dieu sait si aujourd'hui, on est justement face à ce type de menace. Peut-être pas de guerre de religion comme autrefois, mais en tout cas d'exaspération, des tensions très fortes, voire violentes, entre les communautés, entre les croyances, entre les classes sociales aussi. Hein. On est dans une société qui est très dressée contre elle-même.
On a vu avec les Gilets jaunes, déjà la crise des Gilets jaunes. Hein.
On l'a vu à travers les trois séquences politiques par lesquelles on vient de passer. Hein. Il y a eu d'abord la période des attentats islamistes, où là, véritablement, il y a eu des tensions autour de l'islam et autour de la présence des musulmans en France qui sont extrêmement fortes et qui restent extrêmement fortes. On l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire d'un côté, l'expression d'une souffrance sociale, etc., et de l'autre côté, l'inquiétude face à ce qui était jugé comme une violence, je dirais, qui amène le chaos, etc. Donc, il y a de l'incompréhension mutuelle aujourd'hui très très fort dans notre société. Et puis, on le voit d'ailleurs encore avec le Covid. Hein. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on voit la violence des propos qui sont échangés entre ceux qui...
Vax, anti-vax,
etc. Moi, j'ai failli dire ça, puis je me dis, je vais pas prendre ce vocabulaire à la mode, etc. Mais le fait est là. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est vraiment... à mon sens, hein, au bord d'un certain nombre de précipices. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la France. C'est-à-dire que c'est pour ça de dire pas seulement, comme je l'ai dit au départ, qu'on l'aime, mais qu'elle a encore du sens et qu'elle peut encore, avec ses valeurs, à condition qu'on sache les porter de manière généreuse, tolérante, fraternelle, ouverte, elles peuvent nous aider à faire société.
J'aimerais que l'on approfondisse avec vous, Abdennour Bidar, l'idée du génie français. C'est quoi ? Est-ce que c'est un art de vivre ? Est-ce que c'est un art de penser ? Est-ce que c'est effectivement ce que vous décrivez dans le livre, hein, cette propension à pouvoir dire non ? Au début de votre essai, vous citez Philippe le Bel, hein, le roi Philippe le Bel, qui dit non. Non au pape de l'époque, Boniface VIII, non à son pouvoir religieux.
C'est-à-dire que là, en écrivant le livre, je me suis trouvé confronté à une difficulté dont chacun, je pense, peut faire l'expérience en revenant vers lui-même. On est quand même très nombreux à dire que on aime la France et qu'on croit en un génie français. Mais quand il s'agit de le définir,
c'est quoi ?
C'est plus compliqué.
Eh oui.
Et donc, comme ça, on cite pêle-mêle l'art de vivre à la française, etc. Bon, mais je crois que c'est plus profond que ça. Et je me centre, alors sans que ce soit la fin du débat et sans que ce soit exclusif, mais sur le fait que dans l'esprit français, il y a quelque chose qui est foncièrement rebelle. Voilà, ça me paraît fondamental. Dans nos mauvais jours, ça donne l'esprit de contradiction, ça nous rend râleurs, rétifs à tout changement, etc. Ingouvernables.
Irréformables,
blablabla. Oui. Bon, ça c'est sûr. Mais en même temps, on a un esprit de résistance, un esprit d'insurrection. On est allergique à la domination, on est allergique à la soumission. Et ça, je crois que c'est une force. Hein. France, ça veut dire libre. Ça, c'est vraiment très, très important, étymologiquement. Et d'ailleurs, toutes nos grandes figures fondatrices, depuis Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ, en passant par Jeanne d'Arc jusqu'au général de Gaulle, dont je parlais tout à l'heure, on a mythifié volontiers et de manière systématique des grandes figures de rébellion. Et pas seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan intellectuel. Un de nos grands philosophes du XXe siècle, français, Alain, Émile Chartier, dit Alain, écrit un texte dans Propos sur les pouvoirs dans lequel il dit « penser, c'est dire non ». Et contrairement, je dirais, aux philosophes allemands qui construisent de grands systèmes idéalistes et métaphysiques, la pensée française, à partir de Descartes, par exemple, eh ben elle dit non. Descartes, dans les Méditations métaphysiques, c'est quelqu'un qui dit non. Et même, je dirais, d'une façon qui ressemble un peu à Don Quichotte, il dit non, je veux pas me laisser convaincre que ce qu'on appelle la réalité est la réalité. Je veux douter de tout.
Blaise Pascal voilà. Aussi.
Blaise Pascal, bien sûr. Alors Blaise Pascal, je dirais particulièrement, parce que, et là ça m'intéresse encore plus par rapport à la thèse du livre, c'est-à-dire que Pascal, on le présente toujours comme un mystique chrétien, mais c'est un mystique chrétien qui est critique du religieux. Hein, qui est critique du religieux, c'est-à-dire critique de toutes les formes dans lesquelles on enferme le sacré. Voilà, et ça c'est une thèse qui est au cœur du livre. Je dis, dans le génie de la France, il y a un rapport au sacré qui en même temps désacralise, mais ne désacralise pas par hostilité au sacré, mais parce que peut-être que chez nous, Français, le rapport au sacré est d'une exigence particulière qui fait que on dit non à tout ce que j'appelle les idoles. Hein, c'est-à-dire toutes les formes dans lesquelles ce sacré est représenté, incarné, investi, etc. Parce qu'on a un esprit, et là, s'il faudrait parler de Voltaire, on a un esprit qui est antidogmatique, fondamentalement.
Voilà. Qu'on a retrouvé chez Molière aussi.
Qu'on a retrouvé chez Molière, c'est-à-dire que oui. Molière n'est pas, voilà, c'est typiquement ce qu'on a appelé l'ironie française, c'est-à-dire il n'est pas seulement là pour nous faire rire. Il nous fait rire, mais on grince des dents, hein, et en réalité, il s'attaque à toutes les puissances. Donc, il s'attaque à toutes les puissances religieuses, à tous les tartuffes, il s'attaque à toutes les puissances politiques, bon, avec la prudence qui était nécessaire au XVIIe siècle, mais parce que, justement, ces puissances religieuses et ces puissances politiques revendiquent un respect sacré. Et le Français dit non, je veux blasphémer.
C'est ça, absolument. On arrive au blasphème.
Voilà,
on arrive au blasphème. Et au droit au blasphème.
Et au droit au blasphème. Et donc,
vous, en tant que musulman, soufi, vous dites oui, on doit pouvoir avoir le droit au blasphème, même si effectivement vous n'en partagez pas forcément la vulgarité, ça peut arriver, non. Mais aussi à certains moments, bon, la drôlerie aussi. Hein.
Bien sûr, c'est-à-dire que là, bon, sachons, je dirais, mesure et raison gardée. Si le moyen du blasphème, c'est l'insulte. La blessure ou l'humiliation délibérée à la croyance d'autrui, le non-respect de la croyance d'autrui, on peut pas quand même faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais, en tant que, j'irais, croyant français, c'est étonnant de dire ça, hein, croyant français, eh bien, non seulement je dis droit au blasphème, mais je dis devoir de blasphème. Parce qu'il y a une exigence dans le blasphème. C'est le blasphème ne se limite pas et ne doit pas, se réduire ou être même confondu avec l'insulte faite à quelque chose que d'autres ont sacralisé. C'est une exigence vis-à-vis du sacré. C'est-à-dire que grâce au blasphème, eh bien, on est amené à considérer que le sacré qu'on avait investi dans une forme, hein, c'est-à-dire qu'on a sacralisé un texte, on a sacralisé un prophète, l'image d'un prophète, le prophète Mohammed, par exemple, pour les musulmans, ou le Christ tel qu'il est représenté, eh bien, le blasphème nous fait prendre conscience qu'en réalité, même si l'image est souillée, ce dont l'image est l'image n'est pas atteint. C'est-à-dire que dans le sacré, il y a une dimension transcendante, il y a une dimension qui échappe.
C'est-à-dire qu'une foi très solide peut très bien ne pas être touchée par le blasphème.
Alors, même, allons plus loin, en être nourri. En être nourri, c'est-à-dire que, moi, par exemple, en tant que croyant, quand je vois une image sacrée blasphémée, je ne parle pas seulement de l'image du prophète, c'est l'opportunité d'un rappel essentiel. C'est le rappel essentiel que l'objet de ma foi, l'objet de ma prière, l'objet de mon orientation intérieure, c'est pas l'image qui est blasphémée, c'est qu'elle représente, mais qu'elle ne représente qu'à la mesure d'une image, c'est-à-dire ça n'est jamais qu'une représentation d'un
humaine,
mystère
et humaine,
d'un mystère transcendant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le mystère, c'est pas l'image. Vous voyez ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'associe, je parle beaucoup dans le livre de la destruction des idoles. Thank you.
continuer, on va poursuivre avec la laïcité à la française. Et à ce peuple français qui sait dire non, hein, donc qui a dit non au pouvoir religieux. Est-ce qu'en disant non au pouvoir du religieux, au sacré religieux, est-ce qu'il a dit oui au sacré politique? Ça, c'est la grande question aussi de votre livre.
Oui, c'est la grande question, parce que c'est toujours ainsi qu'on se raconte notre propre histoire. Et je pense que c'est faux. C'est-à-dire que on se dit que nous, Français, à partir de la sacralisation de la monarchie sous l'Ancien Régime, de ce que les historiens ont appelé la pontificalisation du pouvoir royal, justement à partir de Philippe le Bel, et jusqu'à, dans la modernité, l'émergence de ce que certains historiens ont appelé la République de droit divin, on aurait désacraliser le religieux uniquement pour sacraliser le politique, le pouvoir politique. Mais je crois que ça n'est là qu'une apparence. Et que, en réalité, c'est la laïcité qui donne le fin mot de l'histoire, finalement. Hein. C'est-à-dire que ça m'a intéressé de raconter les choses comme ça, parce que un pays, c'est une longue histoire. Un pays, c'est une très très longue histoire. Et je pense qu'on a eu un rendez-vous très très ancien avec le sacré, et avec la question de savoir ce qu'on voulait, nous, Français, sacraliser. Et, à l'arrivée de cette histoire, finalement, quand la laïcité est instituée par la loi du 9 décembre 1905, donc début du XXe siècle, eh bien, on se rend compte que c'est pas le pouvoir politique qui a été sacralisé. Parce que, comme le disait déjà Régis Debray, il y a quelques années, la laïcité, en réalité, laisse vide la place de la croyance. Donc, en fait, elle réalise ceci, que, au centre de la cité humaine, on enlève toutes les croyances. On enlève toutes les idoles. Ça ne veut pas dire qu'on chasse, encore une fois, la religion de l'espace public, mais on n'installe aucune idéologie en position de pouvoir. C'est-à-dire que le centre de la cité humaine, ça doit être la liberté. C'est hyper important. Et c'est notre façon de dire non politiquement. Non à tout ce qui voudrait une idéologie religieuse ou une idéologie politique qui voudrait régner sur nous, qui voudrait nous dominer. Vous voyez ? Voilà. Et c'est en ce sens-là je fais le lien, là, entre quelque chose qui s'est cherché depuis longtemps dans l'histoire de France et la laïcité. Je la vois pas du tout comme un, je dirais, quelque chose qui sort de nulle part, ou un accident moderne, mais au contraire comme la résolution d'un problème ancien, de quelque chose que nous, Français, nous avons cherché en nous-mêmes, une conscience de soi française, si vous voulez, qui s'est cherchée, d'abord en étant rétif au pouvoir du clergé, et puis ensuite, eh bien, en chassant les rois, quand même, en coupant la tête du roi. C'est-à-dire qu'après avoir adoré, un peu contraint et forcé, le roi Soleil, eh bien, deux rois plus tard, on lui coupe la tête et on a une révolution sanglante qui va tout d'un coup désacraliser de manière radicale le pouvoir politique dans lequel l'autorité sacrée avait été investie. Je me dis, mais quelle est la suite logique de ça? Eh bien, il me semble que il y a une continuité qui arrive à cette laïcité qui laisse vide la place de la croyance.
Et on ne répétera jamais assez, effectivement, les termes de la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État. L'État ne reconnaît aucune religion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Abdennour Bidar?
Alors, il y a, je dirais, une confusion possible.
Oui.
Une confusion possible, ça veut dire que nulle religion n'a le droit de montrer le bout de son nez dans l'espace public. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que à partir du moment où on sépare les églises et l'État, l'État n'a plus aucun pouvoir dans le domaine spirituel, mais la religion non plus n'a plus aucun pouvoir dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que aucune religion n'a plus le pouvoir d'interdire ou d'imposer quoi que ce soit en matière de conviction existentielle. C'est-à-dire que vous soyez athée, agnostique ou croyant, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, c'est-à-dire vous n'êtes pas ni privilégié parce que vous avez telle confession, ni un citoyen de seconde zone parce que vous appartenez à une minorité athée ou religieuse X ou Y. Donc c'est ça qui me paraît particulièrement important. Le fait que la loi de 1905 dit que la République ne reconnaît aucun culte, ça ne veut pas dire qu'elle chasse la religion de l'espace public, ça veut dire qu'elle n'admet plus, elle n'accepte plus qu'une idéologie soit en position de pouvoir telle que tel ou tel citoyen va se trouver inquiété parce qu'il n'est pas de la bonne religion. Vous voyez ?
Et en même temps, cette laïcité, elle est mal comprise. Un certain nombre de musulmans, surtout des musulmans pratiquants même, une majorité, hein, semble-t-il, selon un sondage, hein, le sondage Paris, 66% des musulmans pratiquants réguliers eh bien, considèrent, par exemple, que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République.
Alors là, on est face à un travail de pédagogie,
oui.
Un travail d'explication, un travail aussi d'acculturation. Hein, et là, je le dis sans ambiguïté. L'islam en Europe, l'islam en France, pour ce qui m'intéresse dans le cadre défini par ce livre, est un islam qui va devoir réfléchir de manière critique sur lui-même. Il ne va pas pouvoir se contenter de répéter indéfiniment ses préjugés traditionnels. Et là, en l'occurrence, le préjugé traditionnel, c'est que la loi de Dieu l'emporte sur la loi des hommes. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire seulement avec la laïcité, c'est quelque chose qui est contradictoire avec la démocratie. Quand Jean Jaurès disait, par exemple, au début du XXe siècle, laïcité et démocratie sont identiques, il avait raison. C'est-à-dire que la démocratie est déjà par essence laïque, au sens où la démocratie, c'est l'ambition pour un groupe humain, un peuple en l'occurrence, de fonder son ordre politique uniquement sur un fondement naturel. Ce fondement naturel, c'est l'assemblée des citoyens qui discutent, hein, pour élaborer la loi. Donc ça veut dire que dans une démocratie, on n'a pas recours à un fondement surnaturel. Donc on n'a pas recours à une loi sacrée, on n'a pas recours à un texte sacré, on n'a pas recours à une parole qui viendrait d'en haut. Bon, eh bien, il va falloir, mais c'est passionnant, c'est pas quelque chose, je dirais, qui va conduire les musulmans à renier leur foi. Il va falloir simplement que la religion musulmane prenne une nouvelle intelligibilité d'elle-même et trouve l'opportunité, qu'elle le voit de manière positive, comme l'opportunité d'une nouvelle intelligibilité d'elle-même dans ce contexte démocratique, dans ce contexte laïque. Et moi, je dirais que, eh bien, l'islam, ça risque simplement de lui faire du bien. Je le dis en tant que musulman. Pourquoi est-ce que ça risque de lui faire du bien? Parce que, à chaque fois que, eh bien, on enlève à la religion, quelle qu'elle soit, sa volonté de puissance, c'est-à-dire sa volonté de faire la loi, eh bien, le croyant, en réalité, respire. Il trouve l'occasion d'une respiration.
Et entre dans une vraie vie spirituelle.
Ben, disons, c'est un peu le passage du religieux au spirituel, effectivement. C'est-à-dire le passage du contraint, du dogmatique, de la règle, de la norme, du jugement social, etc. Et Dieu sait si, du côté de l'islam, tout cela peut être pesant dans un certain nombre de milieux. Vous voyez, il faut faire ceci, il faut pas faire cela, etc. À une spiritualité qui est une spiritualité véritablement du consentement, qui est véritablement libre, c'est-à-dire je suis musulman, je revendique simplement le droit d'avoir à ma foi la relation qui me convient, et pas qui me convient, je dirais, d'une manière superficielle, c'est-à-dire je fais ce qui me plaît, etc., mais qui convient à mes véritables besoins spirituels profonds.
Hein, oui, ce parce qu'on appelle une autonomie de la foi.
Voilà, une autonomie de la foi, une autonomie spirituelle. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, cette laïcité nous conduit à parler à la fois d'une liberté politique, hein, une liberté de droit, et d'une liberté spirituelle. Les deux étant liés. Et je suis hyper étonné, et c'est l'étonnement que j'ai aussi manifesté dans le livre, que on répète tout le temps que la laïcité veut être la garantie d'une liberté politique pour les athées, les agnostiques, les croyants d'être ce qu'ils sont, d'avoir une religion, de ne pas en avoir. Mais on ne dit pas, et c'est préjudiciable, on devrait le dire, que c'est en même temps une liberté spirituelle. Parce que, eh bien, justement, je peux choisir mon option existentielle, je veux me référer à un dieu, je veux avoir une vie spirituelle qui passe pas par la religion, etc. Eh bien, j'en ai le droit.
Abdi Nour Bidar, ce sondage que j'évoquais il y a quelques instants de Challenge, hein, du magazine Challenge, posait également la question « Pensez-vous qu'un jour l'islam sera la première religion de France ?» 39%, hein, si j'additionne les 12% qui disent « oui, certainement » et les 27% « oui, probablement », donc 39% pensent qu'effectivement, un jour, l'islam sera la première religion de France.
Je me méfie de ce genre de pronostic, oui. Si vous voulez, et puis de l'effet fantasmatique de ce genre de questions.
Hein, et de quel islam aussi dont on parle, bien sûr.
Voilà, oui. Les deux étant liés. Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire peur aux gens, on leur disait « oh là là, mais voilà, le catholicisme perd trop de vitesse, l'islam au contraire déferle, etc. » Donc moi je suis très prudent avec ce genre à la fois de pronostic et avec cette façon de présenter les choses. Mais vous avez raison, c'est-à-dire de quelle religion s'agit-il ? C'est-à-dire que si demain l'islam de France est une religion de la chaléa, c'est-à-dire une religion de la loi, non, je pense qu'il y a quelque chose là qui n'est pas acceptable pour le génie français. En revanche, si on a un islam, et moi je vois beaucoup de jeunes musulmanes et de jeunes musulmans qui sont tout à fait dans cette démarche, si on a un islam qui non seulement prend acte des lois de la République, mais qui a réussi à se transformer avec les valeurs que nous portons ici, hein, c'est-à-dire dans une qui a réussi à faire l'harmonie, qui a réussi à faire la concorde entre ces valeurs traditionnelles et les valeurs de la République, Bon, de toute façon, nous serons demain dans une société multiculturelle encore plus qu'aujourd'hui, où le rapport au spirituel, c'est ça aussi qui est à voir, je dirais, en fond d'écran au-delà de l'islam, le rapport au spirituel est aujourd'hui en train de se diversifier à vitesse grand V. Donc c'est pas la peine d'agiter le spectre d'un islam qui régnerait sur je ne sais quoi.
Conclusion alors, la laïcité, une chance pour l'islam. Abdennour Midar, à vous lire.
Oui, et puis l'islam aussi une chance pour la France parce que ça nous oblige, cette présence de l'islam, à nous reposer des questions fondamentales et à retrouver le sens de qui nous sommes.
Je vous remercie, donc je rappelle, titre de votre livre, Génie de la France, et c'est publié chez Albin Michel. Merci Abdennour
Midar. Merci beaucoup Geneviève Delrue.
Comment la Bible a-t-elle toujours son mot à dire face aux grands enjeux contemporains ? Notre invité, Gabriel Ringlet, prêtre belge, théologien, homme de communication, écrivain, poète, a toute sa vie mené ce travail de convergence entre les Écritures et l'actualité. Ancien vice-recteur de l'Université catholique de Louvain, il y a enseigné le journalisme et dirigé la section consacrée à cette discipline. Son dernier essai, « Va où ton cœur te mène », publié chez Albin Michel, qui porte sur la figure du prophète Élie, en est une bonne illustration. Gabriel Ringlet, bonjour.
Bonjour.
20e anniversaire des attentats du 11 septembre, l'ordre islamiste qui s'installe en Afghanistan avec le retour au pouvoir des talibans. Qu'a à nous dire le prophète Élie aujourd'hui et qui est Élie ?
J'ai envie de dire que Élie, c'est un taliban qui se convertit d'une certaine manière. C'est incroyable à quel point, je ne m'y attendais évidemment pas, à quel point ce livre allait rejoindre une actualité aussi brûlante. Imaginez qu'aujourd'hui à Kaboul, un taliban se lève et dise « ce Dieu terrible, ce Dieu qui exige une application de la charia littérale, ce Dieu qui exige la burqa, etc., etc., etc. » Mais non. Je me suis trompé, ce n'est pas lui. Le Dieu que je veux vous communiquer, c'est un Dieu de la douceur, c'est un Dieu du souffle ténu. Personne d'entre nous n'imagine cela possible en ce moment. Or, c'est exactement Élie. Élie a massacré ceux qui ne pensaient pas comme lui, ceux qui étaient de la religion d'en face. Et c'est tout un cheminement extraordinaire pour moi qui l'amène à gravir la montagne où il espère aller recevoir l'or olympique, après avoir osé massacrer au nom de Dieu, et qui va redescendre dans la plaine en se convertissant petit à petit, en devenant cet Élie de la douceur, cet Élie de la tendresse. Et c'est cela qu'il va communiquer à son successeur Élisée. Moi, je trouve que cette histoire d'il y a 2900 ans est d'une incroyable actualité, et c'est en même temps un formidable regard sur Dieu qui dépasse très largement la religion. Je pense que des gens qui ont un regard critique sur Dieu, et notamment des gens non-croyants, doivent relire Élie. Je ne connais aucun prophète qui a osé s'en prendre à Dieu avec une telle force. D'ailleurs, Dieu doit le calmer.
Des prophètes, vous écrivez, Gabriel Ringlet, ce sont des lecteurs, des défricheurs d'aujourd'hui. Ils devancent, ils précèdent. Quand il est minuit, lui, il contemple déjà le lever du soleil. Voilà, il y a une urgence aujourd'hui à convoquer des prophètes.
Une formidable urgence, et en sachant que les prophètes, ils peuvent être parmi nous, que ce ne sont pas les premiers de classe, que ce sont des gens tout à fait ordinaires, qu'en général, ils ne veulent d'ailleurs pas y aller. Hein. On doit beaucoup, beaucoup insister, mais non, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, dit Jérémie. Élie est un peu différent. Hein. Lui, il n'a pas peur et il endosse sa vocation fortement. Mais la plupart des prophètes, ce sont des voyants, ce sont des criants, dit la Bible, hein, des nabis, c'est-à-dire des gens qui, de fait, nous précèdent, mais ils ne sont pas détachés de notre vie quotidienne. Ils vivent parmi nous, ils sont proches de nous, ils sont très, très enracinés. Ce sont des gens qui suivent le mouvement, c'est mon ami Gérard Bessières qui dit cela, le mouvement de la transhumance. voyez ce troupeau qui traverse tous les villages et ce berger qui va les conduire vers des pâturages plus sympathiques. C'est exactement cela le prophète. Il voit où la nouvelle herbe est en train de pousser, mais il dénonce aussi avec force et donc il peut formidablement nous déranger. Nous en avons un urgent besoin.
Vous avez des noms de prophètes aujourd'hui ?
Écoutez, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un piège à citer tel ou tel nom particulier, mais par contre, je crois à des mouvements. De même qu'au temps d'Élie, il y avait des mouvements prophétiques. Aujourd'hui, quand je vois la résistance des femmes du Yémen, c'est d'un courage fou. Je peux imaginer aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, qu'en Afghanistan, là aussi, des femmes sont en train de résister, de construire quelque chose envers et contre tout. Je pense que lorsque nous avons vécu tous les événements du Covid, je pense à ce qui s'est passé dans le 20e arrondissement de Paris, où en dehors de toutes les institutions, des hommes, des femmes en toute fraternité se sont levés pour aller au secours et au devant de ceux qui étaient sans domicile fixe, en disant qu'ils étaient peut-être les plus grandes victimes de la pandémie, etc., etc. Il y a des prophètes parmi nous qui pose des gestes absolument inouïs. Nous avons vécu en Belgique des inondations épouvantables. Les gestes de solidarité qui sont venus dans l'anonymat ont été vraiment prophétiques et ont beaucoup encouragé ceux qui vivaient ce drame.
Pour vous, Dieu est là, dans la fraternité.
Dieu, il est dans la fragilité, il est dans la fraternité, il est dans le silence, il est dans le balbutiement, il est dans le doute. Dieu est tellement proche de nous, et c'est cela son plus grand encouragement, c'est que Dieu n'a pas réponse à tout, il ne descend pas en parachute pour venir me livrer la réponse, mais il marche avec mes pas, joyeux de ma joie, triste de ma tristesse, et il me dit surtout, quoi qu'il en soit, je ne t'abandonnerai pas.
Gabriel Ringlet, revenons quand même sur cette histoire d'Élie et du Mont Carmel. Il y a aussi dans cette histoire un roi, le roi Achab, oui. Et puis il y a sa femme,
Jézabel,
qui est voilà, qui est quand
un
même une
solide
femme.
Numéro.
C'est un solide numéro, enfin on dirait un peu excité religieusement.
Oui, elle est cananéenne et elle vient avec tout son bagage religieux, elle est adepte du dieu Baal, elle nourrit de très nombreux prêtres et prophètes et elle entend attaquer le dieu d'Élie et réciproquement. Donc l'affrontement entre ces deux-là, ce n'est pas triste.
Hein. Sur le mont Carmel, qu'est-ce qui va se passer précisément ?
Alors, Élie, qui s'était échappé et qui se retrouve face au roi Achab, tient ce pari formidable. Qui est Dieu ? Tu veux savoir qui est le vrai Dieu ? Mais convoque tout ton peuple, parce que nous sommes au terme d'une terrible sécheresse que lui a provoquée. Et alors, pour arrêter cette sécheresse, il fait ce pari avec Achab. Convoque ton peuple, et nous allons voir qui est le vrai Dieu, et quel est celui qui répondra à nos prières. Alors, c'est inouï, hein, on se croit dans un feuilleton. Élie qui se moque de ses adversaires en disant « Allez-y, continuez à faire toutes vos gesticulations, rien ne se passe. » Et Élie voit que Dieu entend sa prière et envoie soudain ses éclairs. Et là, vraiment, c'est le grand, grand basculement. Le peuple se met à genoux et dit « C'est Élie qui a le vrai Dieu. » Et là, c'est dramatique, c'est terrible. C'est à ce moment-là qu'il convoque et fait descendre au bas de la montagne tous ses prêtres d'en face, tous ses prophètes d'en face du dieu Baal, et il les trucide un à un. Alors, moi je pense tout le temps à ce que dit Paul Ricoeur, hein. Plus une parole est forte, et plus il faut la délivrer faiblement. Ou un de mes anciens professeurs de théologie à Louvain qui disait « Méfiez-vous de la religion, elle peut ensemencer la violence ». C'est exactement ce qui se passe au mont Carmel. Quelqu'un qui est tellement habité par une foi trop bétonnée et qui va jusqu'au massacre. Et donc c'est bien cela le grand chemin qui va aller vers la conversion d'Élie et qui est un chemin qui se pose à chaque croyant, je trouve, à chacun d'entre nous, à toutes les convictions. Comment être habité par une parole solide, ce qui est très respectable, et l'offrir dans sa fragilité pour ne pas arriver à tous les massacres que nous savons.
Précisément, il y a une phrase que j'ai retenue dans votre livre, Gabriel Ringlet, donc « Va où ton cœur te mène », concernant Dieu. Élie n'imaginait pas, enfin c'est même plus qu'une phrase, c'est un paragraphe, Élie n'imaginait pas à quelle conversion il était appelé, vers quel ailleurs il se trouvait entraîné et quel dépouillement lui était demandé, changer de Dieu, quitter Dieu pour rejoindre Dieu au-delà de Dieu, croire plus humblement et entrer dans le grand silence où habite l'absent, hein, avec A majuscule,
oui.
L'absent du samedi.
C'est tout à fait ma conviction la plus profonde. Le Dieu dont je parle ici, vers lequel Élie se dirige, c'est le Dieu du peu. Croire avec peu de foi, aimer avec peu d'amour, espérer avec peu d'espérance. Nous pensons toujours, en général, que le mieux c'est le trop plein. Mais non, toute cette histoire d'Élie nous dit que le mieux c'est le peu. Et un grand poète comme Philippe Jacotet nous dit qu'on peut changer le monde avec un peu de bonté. C'est peut-être cela le résultat de l'histoire d'Élie, finalement. Un peu de bonté et tout le prophétisme bascule.
La Belgique a été aussi, comme la France, hein, d'une autre façon, bien sûr moins fortement, mais quand même, touchée par le terrorisme islamiste. Oui. Qu'avez-vous écrit à ce moment-là, lorsqu'il y a eu des attentats, je pense par exemple au musée de Bruxelles, au métro? Comment avez-vous réagi à ce moment-là, Gabriel Ringlet?
Je pense que ce qui a été très 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 important et qui m'a bouleversé, c'est l'attitude d'un certain nombre de victimes, de survivants, de gens qui avaient perdu un être très cher dans tous ces attentats et qui ont eu ce courage inouï de refuser la haine pour que précisément la haine ne l'emporte pas. Ça, c'est le sommet du sommet de la force intérieure dans l'extrême fragilité de son expression. Et je crois que le procès qui s'ouvre aujourd'hui, c'est un procès qui doit faire entendre toutes ces voix-là, qui doit donner la parole à toutes ces victimes qui ont traversé pendant 6 ans des moments parfois absolument terrifiants, mais qui ont vraiment quelque chose à dire. Peu importe si on n'arrive pas jusqu'au bout du bout et parce que les principaux responsables ne sont plus là, il n'empêche que ce procès est fondamental par respect pour tous ceux qui ont traversé et ces moments et ces années et qui, je pense, ont quelque chose à nous dire de plus large qu'eux-mêmes et qui touche à la société tout entière et à la manière de vivre ensemble. En fait, ces attentats, ce qui se passe dans l'actualité du monde, comme en Afghanistan pour l'instant, et même sur un tout autre plan, la pandémie, ce sont des lieux qui nous donnent des signaux auxquels nous devons être très très attentifs si nous voulons construire ensemble un monde un peu différent.
Oui, effectivement, il y a cette phrase que vous venez de citer et que j'avais lue aussi de la part d'un mari devenu veuf avec les attentats de Paris. Cette phrase que j'ai mise d'ailleurs dans mon bureau, « Vous n'aurez pas ma haine ».
C'est ce qui nous a le plus touchés pendant ces événements qui, moi, m'a véritablement bouleversé et que j'ai commenté à plusieurs reprises. Ça dit tout.
Oui, vous n'aurez pas ma haine. Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Gabriel Ringlet pour son livre « Va où ton cœur te mène » publié chez Albin Michel. La vie spirituelle, aujourd'hui, effectivement, fait, semble-t-il, défaut, en tous les cas, dans les vies urbaines que nous menons. Il n'est pas toujours très facile d'avoir une vie spirituelle. Vous avez écrit « La vie spirituelle, c'est une manière de rester vivant plus large que soi ».
Oui. C'est Francine Cario qui a dit cela, pasteur à Genève.
C'était pas vous alors.
Oui, j'ai repris sa phrase, mais c'est pour la lui rendre.
C'est
et
bien.
Je trouve ça admirable. Rester vivant pour plus large que soi, ça vaut pour toutes les formes de vie spirituelle, dans et hors religion. Je serais tenté de dire que ce rendez-vous avec la spiritualité, il est plus prégnant, il est plus parlant, il est plus fort qu'on ne l'imagine aujourd'hui, mais il se déplace. Et nous avons encore quelques peines à lire ce déplacement. Je vous donne un exemple. Dans le prieuré que j'anime en Belgique, prieuré de Malève-Sainte-Marie, nous lançons dans quelques jours une école des rites et de la célébration. Autrement dit, pour chacune, pour chacun, pas du tout pour des prêtres ou des pasteurs, pour monsieur et madame tout le monde, qui se sent cette volonté et cette vocation à célébrer, à poser des rites, de la naissance jusqu'à la mort. Nous ne nous attendions absolument pas à des inscriptions aussi massives, à une formation comme celle-là, de gens qui nous écrivent et qui sont parfois très jeunes. Je crois que j'ai vocation à célébrer. Et des gens qui nous disent « c'est tout à fait essentiel pour moi de m'engager dans cette direction-là ». Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup encouragé. Je pense qu'il y a aujourd'hui une volonté, non seulement d'un chemin spirituel qui serait un petit peu dans l'abstrait ou simplement pour sa propre évolution personnelle, mais qu'il y a une véritable évolution collective, une attention à l'autre à travers la célébration. En tout cas, moi, j'attends énormément de cette école. Je trouve ça très, très bon signe. Et je pense que peut-être la spiritualité pourrait ressurgir de manière inattendue aujourd'hui, mais hors des lieux où elle avait d'habitude rendez-vous avec nous.
Vous voulez dire en dehors des églises?
Notamment en dehors des églises.
Pour les chrétiens?
C'est tout à fait clair.
Et pour les autres?
Mais je pense que précisément, c'est cela qui moi me touche tellement dans mon prieuré, cette formation à la célébration, nous l'offrons à tous. Et nous avons des non-croyants qui s'inscrivent comme des croyants. Et à tous, nous allons poser la question, qu'est-ce que célébrer? Et à tous, nous allons dire, comment va-t-on célébrer la naissance? Comment va-t-on célébrer l'alliance? Comment va-t-on célébrer la mort? Comment va-t-on poser des gestes, inventer de nouveaux rites qui soient vraiment parlants pour chacune et pour chacun, et avec un tronc commun? On pourra aller chacun dans la direction qui est propre. La laïcité pourra célébrer de manière laïque, des chrétiens de manière chrétienne. J'ai aussi des gens qui viennent d'autres religions. C'est très, très, très intéressant ce rendez-vous entre gens qui aspirent à poser des gestes, à poser des rites qui aident à dépasser, à habiter le quotidien autrement.
Vous voyez cela comme une évolution, en quelque sorte, de la pratique religieuse?
Absolument. Et une telle évolution, ce n'est absolument pas un secret, c'est tout à fait officiel, qui fait qu'un diocèse, le mien, le diocèse de Liège, organise une session pour dire comment faire, comment célébrer autrement. Nous avons tout à fait conscience que les rassemblements traditionnels, y compris de nature paroissiale, sont un peu dépassés. Et je pense effectivement que les rendez-vous aujourd'hui se prennent ailleurs et autrement. Mais ce n'est pas pour cela que ces rendez-vous n'existent pas.
Dans d'autres lieux.
Dans d'autres lieux.
C'est une intercélébration.
Oui, mais il s'agit d'inventer cela sereinement, joyeusement. Et je vois que le public, quand on lui propose cette alternative, répond en masse. Donc ce n'est pas du tout la fin des chemins spirituels, selon moi. Loin, loin de là.
Et l'Église de Belgique réagit comment? Plutôt positivement, semble-t-il. En tout cas, votre diocèse, mais plus largement.
Plutôt positivement, puisque nous parlions d'Élie et du prophétisme, je pense que de toute urgence, il faut que l'Église, la mienne en particulier, l'Église catholique, se dirige vers de grands gestes prophétiques. Je pense que ce doit être vrai sur le plan éthique. Il faut que l'Église propose de nouveaux rendez-vous. Moi, je voudrais que le pape convoque au Vatican toute une série de milieux très éloignés du christianisme, notamment les milieux laïcs, et dise « je vous écoute ». Non pas pour vous faire la leçon, mais parce que pour arrêter mes propres positions éthiques, J'ai besoin aussi de m'inspirer des vôtres. Je voudrais que l'Église devienne prophétique sur le plan doctrinal. C'est fini de dire « si vous ne croyez pas à la résurrection, vous n'êtes pas des nôtres ». Ça n'a plus aucun sens. Même des chrétiens de la plus petite paroisse de la base.
Ça fonctionne plus, de toute
façon. Ça fonctionne plus du tout. Et donc, rendons les grandes questions dogmatiques tout à fait libres. Et tout le monde s'en portera beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, troisième grand chantier, c'est que chacun soit appelé à célébrer.
On va terminer notre échange, Gabriel Ringlet, sur votre petit filleul.
Hein, oui.
Qui s'appelle Élie.
Voilà.
Et grâce à lui, eh bien, et puis aussi pendant la période du Covid, hein, puisqu'il vous a retenu, comme tout le monde, un peu à l'isolement, eh bien, vous avez vu ce petit enfant grandir. Vous l'avez connu bébé. Hein,
je l'ai connu bébé. Je l'ai accompagné en poussette pendant des kilomètres et des kilomètres chaque jour.
Des kilomètres de lando, vous ne connaissez pas.
Je n'avais jamais fait ça, je n'avais pas mis beaucoup de lange dans ma vie, je n'avais pas donné beaucoup de biberons, j'ai fait tout ça. Vous voyez, tout est possible.
Tout est possible.
Et c'est une des plus belles périodes qui m'ait été donnée de vivre, franchement.
Et ce sont des pages, je dois dire, magnifiques, que l'on peut lire à la fin de votre livre. Il y a ce petit bébé à qui vous parlez, hein, à la fin du livre. Vous lui dites, voilà, tu me rends jeune et je te rends vieux. Tu me rends jeune et je te rends vieux. Tu me déracines et je t'enracine. Alors ça, on est dans la transmission, là.
On est dans la transmission et vraiment, c'est à entendre de manière littérale, hein, ce petit. Il m'aide à redécouvrir l'enfant éternel qui est en moi, qui est en vous, Geneviève. Je crois que l'enfant éternel nous habite. Encore faut-il que nos enfants nous le rappellent. Ce sont parfois les jeunes qui disent aux vieux « N'oublie pas l'enfant qui est en toi ». C'est le filleul qui doit rappeler à son parrain « N'oublie pas l'enfant qui est en toi ». Je crois que retrouver ce « puer eternus » dont parlait Jung, c'est une des questions fondamentales d'aujourd'hui. Et je crois que la pandémie nous aura révélé qu'il y a quelque chose à reconstruire entre les générations. Et c'est pour cela que j'ai cité Coëlette, l'autre grand livre biblique, d'où vient le titre, hein, « Va où ton cœur te mène ou regarde tes yeux ». C'est un espèce de lanceur d'alerte, Coëlette. Il est bien en dialogue avec le prophète Élie et il nous dit justement des choses tout à fait essentielles sur le passage des générations.
Et oui, vanité des vanités,
tout est vanité.
Voilà. Nous devons effectivement être tout à fait humbles face au...
Absolument, rien de nouveau sous le soleil, c'est de lui aussi, mais va où ton cœur te mène, c'est aussi de lui.
Et c'est le titre de votre beau livre, Gabriel Ringlet, publié chez Albin Michel. Merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Tout à l'heure sur